Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série dans Priorité Santé, des portraits que l'on va retrouver tout au long de cette semaine, des entretiens avec des femmes, avec des hommes, médecins et praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels pour le bien-être du plus grand nombre. Une nouvelle série que l'on inaugure avec une femme, médecin, chercheur, professeur, ministre, maire, grand-mère, professeur à Wamari Colsec, bonjour.
Bonjour.
Je dois vous appeler comment, madame la ministre, professeur, madame?
Maman, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ça me rajeunit, c'est très bien en plus. Multiples rôles et fonctions que je viens d'énoncer. Est-ce que vous voudriez en ajouter d'autres pour compléter?
Je pense que vous avez parlé d'épouse, non?
Épouse, je ne l'ai pas dit, parce que c'est la vie privée.
Voilà. Mais c'est aussi une grande place dans la vie d'une personne, donc c'est aussi quelque
surtout
chose.
Surtout quand elle a une famille.
Tout à fait.
On va parler justement de la famille, pas forcément trop, on va beaucoup parler de la santé, on va parler des responsabilités, mais on va remonter quelques petites années en arrière. Votre naissance, on peut donner la date?
Oui.
1951, votre père est médecin. Alors, professeur Awamari Colsec, à quel âge vous avez quand vous dites « moi, ce que je veux faire, c'est soigner les gens »
Vous savez, c'est une question difficile, puisque dès que j'avais à peu près 4 ans, je disais, à Noël, je voudrais avoir une panoplie d'infirmières ou une panoplie de médecins. Donc, je ne sais pas. En tout cas, on m'a posé plusieurs fois cette question, mais j'ai l'impression que j'avais envie de le faire, déjà.
Et votre père, il travaillait en milieu hospitalier?
Il travaillait plutôt dans un service qu'on appelait le service d'hygiène.
Et vous saviez que votre père était médecin?
Je ne réalisais pas ça.
Et dans le Sénégal des années 60, vous n'avez jamais douté, il y a bien sûr les rêves d'enfant, mais après, quand on grandit, on s'engage dans les études, à ce moment-là, vous ne vous êtes jamais dit, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour une fille, ce n'est pas pour une jeune femme?
Bien sûr, il y avait beaucoup de commentaires, notamment faire médecine pendant 7 ans d'études, c'est trop pour une femme. Ça peut compromettre votre vie, même votre vie familiale. Quand est-ce que vous allez avoir un mari, etc. Mais moi, je voulais faire médecine, je voulais soigner les gens, je voulais m'occuper des gens. Et donc, ça n'a jamais été un frein pour moi. Et puis, du coup, j'ai eu aussi tout mon entourage qui m'appuie par rapport à ce choix.
Précisément, j'ai cité votre père. Votre mère, elle regarde comment cette jeune fille qui veut s'engager dans une vie professionnelle, même on parle de carrière professionnelle.
Ma mère était enseignante, donc j'ai eu la chance d'être dans une famille, de naître dans une famille où les gens considéraient que les filles devaient avoir le même destin que les garçons.
Et pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas acquis dans toutes les familles ici au Sénégal.
Bien sûr, on a encore ces problèmes. Bien qu'il y ait beaucoup d'efforts de fait, je discutais d'ailleurs avec un collègue ministre de l'Éducation nationale qui me donnait des statistiques où on voit aujourd'hui qu'il y a presque autant de filles que de garçons, notamment au niveau des premières années. Et puis après, ça commence à diminuer un peu. Mais quand je vois la faculté de médecine où nous étions peut-être 5 ou 6 filles au départ sénégalaises, aujourd'hui, vous avez presque la moitié de la promotion où ce sont des filles. Donc, ça a changé.
Les choses évoluent et vite. Hein. Alors, au cours de ces premiers portraits dans Priorité Santé, on va égrainer des dates, les étapes du parcours, donner la parole à certains de vos proches, avec comme point commun, bien sûr, l'engagement au service de la santé. C'est le cœur même de cette émission. Est-ce que vous vous reconnaissez, professeur Awamari Colsec, au travers de l'expression « vocation » ?
Oui, c'est une vocation, ça me convient tout à fait.
Vocation, ça va, et carrière?
Carrière, elle est venue par la suite.
Avec des hasards d'ailleurs, dans certains engagements, des choses qui vous sont un petit peu tombées dessus?
Dans la vie, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous ou des obstacles que vous devez surmonter et qui forgent votre avenir. Le concours d'internat déjà, il n'y avait pratiquement pas de filles. Certains professeurs aussi qui croyaient en moi. et qui ont vraiment dit il faut qu'elle y aille, elle a de l'avenir. Donc ça aussi, ça m'a influencée. Plus tard, bien sûr, certaines maladies, le sida nous est tombé dessus comme ça, et je me suis impliquée à fond. Je sais donc que s'il n'y avait pas eu le sida, peut-être que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Plus récemment, l'épidémie à virus Ebola, comme vous le savez, nous a demandé aussi beaucoup d'efforts. Donc les carrières universitaires également, la vie internationale. Donc je pense que tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées aussi parce que des personnes ont cru en vous. Moi, je suis persuadée qu'on se fait seul, peut-être, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de mains qui vous sont offertes pour que vous puissiez devenir ce que vous êtes.
Alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que vous citez des rencontres avec des virus. Quand on connaît votre spécialité, c'est pas très étonnant, mais des virus pour conduire une vie, un chemin, c'est plutôt étonnant. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins ont des mentors? Est-ce que vous, professeur Awa-Marie Colsec, vous considérez que une ou deux personnes vous ont vraiment servi de phare dans la nuit?
D'abord, le premier chef de service que j'ai eu, puisque j'ai fait une carrière aux maladies infectieuses, le professeur Ibamar Diop, a été quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup guidé dans ma vie, quelqu'un qui était un exemple pour moi, ne serait-ce que par rapport à la ponctualité, ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Il était toujours là à l'heure et nous, on rasait les murs quand on arrivait 5 minutes après lui. Donc ça, c'est quelque chose d'important et je pense que c'est une qualité qu'il faut que tout le monde ait. Et grâce à lui, je n'ai pas de difficultés dans ce domaine. Par exemple, bien sûr, il m'a aidé dans tout ce qui était scientifique aussi.
Alors, en préparant cette émission, nous vous avons demandé de nous indiquer un ou plusieurs événements clés, hein, décisifs dans ce parcours de médecin. Et d'autres aussi, vous êtes responsable politique. Vous avez cité deux exemples, professeur Awa-Marie Colsec, deux exemples dans votre carrière de médecin. Vous n'avez pas retenu d'événements politiques. Et bien justement, ce sont ces fameux deux virus, hein, la maladie à virus Ebola, le VIH-Sida. Pourquoi avoir évoquer ces dates qui correspondent à des grands moments de la lutte contre la maladie et non, par exemple, dans l'histoire du Sénégal, alors qu'aujourd'hui, vous êtes une femme politique?
Au départ, je n'avais jamais pensé devenir ministre et c'est arrivé comme ça. Je peux dire aussi que le sida, pourquoi je parle de ça? Donc, c'est parce que c'est une carrière purement pratique, une carrière qui a été datée même. Le virus du sida, on en entendait parler. Et un beau jour, j'ai eu un malade qui avait beaucoup de signes assez évocateurs. Mais à l'époque, on n'avait même pas la possibilité de faire les tests au Sénégal complètement. C'était en 86. Et pour vous dire, les premiers cas datent de 81 en Europe et aux États-Unis. Donc en 86, et j'ai fait un prélèvement que j'ai donné à une amie, Mireille Prince-David, qui était chef du laboratoire, qui l'a envoyé aussi en France. Et un beau jour, à 10h, 22h, elle m'appelle, elle me dit « Awa, tu viens de découvrir le premier cas de sida au Sénégal. »
Parce que vous aviez connaissance des symptômes, ça, vous avez mis la puce à l'oreille et vous avez eu cette suspicion.
Voilà.
Alors, si vous le voulez bien, on va illustrer tout de suite notre propos avec une archive RFI. On n'est pas dans les années, justement, 80, mais on est le 31 août 2014. Après la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, c'est au tour du Sénégal de se mobiliser pour lutter contre le premier cas avéré d'Ebola. Il s'agit d'un étudiant guinéen. Le jeune homme est soigné, isolé au service des maladies infectieuses de l'hôpital FAN de Dakar. Et c'est alors l'un des médecins de cet hôpital FAN qui donne de ses nouvelles, le docteur Daïka.
Le patient qui est actuellement au service en unité d'isolement, il va très bien. Et d'ailleurs même, le jour de son admission, les symptômes commencent à disparaître. D'ailleurs même, c'est ce qui nous avait un peu erré par rapport au diagnostic, parce que c'est un patient qui n'avait plus de symptômes. Il n'y a que la fièvre qui persistait. Alors, les vomissements ont disparu, la diarrhée a disparu, il restait juste la fièvre. Mais depuis hier, il n'a plus de fièvre. Hier, il était à 36, aujourd'hui également, il est à 36,4 degrés. Ce que j'ai pu dire en résumé, c'est que le patient actuellement, il va mieux. Et nous, quand même, nous prenons toujours les précautions. On met les équipements de protection individuelle pour aller le voir et pour aller lui donner l'alimentation. Je pense que lui, il ne pose pas problème sur le plan de la prise en charge parce que c'est un patient qui est venu sans diarrhée, sans vomissement. Ça veut dire donc peut-être la prise en charge n'est pas aussi compliquée que cela. Actuellement même, il prend juste un traitement par voie orale.
Alors un son d'archive, l'évocation de ce cas isolé d'Ebola au Sénégal, ce témoignage du docteur K de l'hôpital de Fan recueilli en août 2014 par Bintan Diagne. 2014, Ebola frappe l'Afrique de l'Ouest, on l'a dit, essentiellement trois pays, Guinée, Libéria, Sierra Leone. Vous êtes alors ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Professeur Awamari Kolsek, comment est-ce que vous réagissez? Qui s'exprime? Qui réfléchit? Qui prend les décisions? La ministre ou le médecin?
Les deux, et je crois que ça a beaucoup aidé. D'ailleurs, quand nous avons entendu parler d'Ebola en Guinée, Sierra Leone et Libéria, c'était autour du mois de mars. Et tout de suite, nous avons commencé à nous dire que ça pourrait arriver au Sénégal. Parce qu'on sait que c'est un virus et que donc, il n'y a pas de frontières, comme on dit. Il n'y a pas besoin de passeport pour un virus. Donc, nous avons commencé à nous organiser. Tant au plan de vue de la formation du personnel qui n'était pas habitué à voir ce genre de maladie, qu'à l'équipement qui était nécessaire pour que nous puissions protéger ce personnel-là, mais également la communication a aussi commencé au niveau communautaire, etc. Et donc, nous étions prêts et nous attendions en fait ce cas. Et quand le cas est arrivé, on était plus ou moins prêts. On n'est jamais prêts complètement.
Mais vous aviez anticipé
mais
réellement.
On avait vraiment anticipé.
Parce qu'en tant que médecin, vous aviez le savoir qui vous évitait de tomber dans la psychose, dans la tout peur et d'alimenter justement cette grande peur qui a fait tellement de mal dans d'autres pays.
Tout à fait. Et vraiment, je peux vous dire, jusqu'au président de la République, tout le monde savait ce que c'était Ebola.
Qu'est-ce que vous faisiez des cours magistraux, des explications de virus?
Là, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens et j'ai eu le soutien du président, du premier ministre qui me disait « Vas-y, fais ce qu'il faut faire ». Et bon, ça a beaucoup aidé aussi.
Alors, la riposte à Ebola, on l'a dit tout à l'heure, il y avait eu avant la riposte au VIH-Sida, la pandémie qui marque votre parcours d'infectiologue, on peut dire même qui marque votre vie, c'est pas une passion, mais c'est un engagement de toute une vie, de toute une carrière pour lutter contre ce virus, diagnostic du premier cas. On est donc au milieu des années 80 quand vous diagnostiquez le premier cas. Est-ce qu'à ce moment-là, le corps médical, qui plus est le corps médical africain, réalise ce qui est en train de se passer?
En réalité, dans nos pays, on pensait que c'était surtout l'Europe et les États-Unis.
Parce qu'on associait ça à des pratiques de vie.
Oui, c'est ça. Il faut le dire. Les gens pensaient qu'il y avait beaucoup de discussions autour, à l'époque, parce que ce sont les termes de l'époque que j'utilise, de l'homosexualité, etc. Et les gens disaient en Afrique, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de problème. C'était faux, déjà, mais c'était aussi un problème en Afrique, donc l'Afrique de l'Est surtout, l'Afrique australe. En Afrique de l'Ouest, on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire. Mais le Sénégal semblait être quand même dans une bonne situation. Mais nous avons commencé à avoir nos cas aussi. La prévalence est toujours restée relativement basse, moins de 1%, autour de 1%, maintenant 0,5%. Mais il fallait faire quelque chose. Donc nous avons, dans le service de maladies infectieuses, commencé à avoir plusieurs malades qui arrivaient. Et les premiers arrivés d'Afrique de l'Est ou australe, puis il y a eu des malades sénégalais vivant au Sénégal qui n'ont jamais bougé, etc. Donc il y a eu toute une étape. Mais ce qui est le plus important, ce qui m'a marqué, c'était l'approche nécessaire pour lutter contre ce genre de maladie, l'approche multisectorielle et l'approche communautaire. Ce qui m'a poussé à participer à la création de ce qu'on a appelé Society for Women Against AIDS in Africa. C'était vraiment une ONG africaine qui s'intéressait au problème des femmes dans le sida. Et j'ai milité dans cette ONG-là et j'ai créé la section sénégalaise. C'est dire donc qu'en tant que praticienne, en même temps, je m'occupais d'une ONG.
Est-ce que pour vous, le sida a rapproché les patients du médecin?
Ah oui. Ne serait-ce que pour dire à quelqu'un « vous êtes infecté par le virus du sida ». Je passais des nuits à me dire demain, comment je vais le dire? Comment je vais faire pour ne pas que ce malade s'effondre? Comment je vais faire pour ne pas choquer? Comment je vais faire pour lui donner de l'espoir, etc., etc. Et donc, il fallait connaître la personne. Il fallait presque, je peux dire, l'aimer, avoir envie de ne pas lui faire de mal, etc. Donc, ça a beaucoup rapproché les médecins.
Là, le terme compassionnel prend tout son sens.
La compassion était vraiment là.
Alors, en lisant votre CV, en prenant connaissance des temps forts de votre vie, professeur Awamari Kolsek, les auditeurs, pas mal de vos compatriotes vont peut-être l'apprendre. Vous allez dire peut-être que je saute du coq à l'âne tout à l'heure, vous verrez que non. On découvre des choses. On découvre, par exemple, que l'une de vos passions, eh bien, c'est le basket. Ah. Basket et médecine.
Ah non, j'ai commencé le basket avant. J'étais au lycée et j'étais déjà dans l'équipe du lycée quand j'avais 13-14 ans. Puis je suis allée dans l'équipe régionale, puis j'étais au niveau de l'équipe nationale. Donc j'ai joué, disons, à un niveau assez élevé puisque je suis allée dans des championnats africains. Oui, c'était difficile. D'ailleurs, j'ai eu un championnat, je crois on était à Lomé, où j'ai dû quitter à la demi-finale parce que j'avais des examens à Dakar.
Il fallait choisir à un moment donné.
Il fallait choisir et j'avais des entraîneurs qui comprenaient vraiment tout ça. Et ça me permet de penser aux deux d'ailleurs qui sont décédés, Bonaventure Carvalho et Larry Diouf, qui sont mes vrais entraîneurs. C'est eux qui ont fait de moi la basketteuse que j'étais devenue.
Alors, on va faire le lien justement entre les deux avec un autre document d'archives qui fait le lien entre ce métier et votre passion du sport. On remonte le temps, on est en 1991, le 7 novembre. Ce jour-là, l'un des sportifs les plus célèbres du monde, le basketteur américain Magic Johnson, le meneur des Lakers, tient une conférence de presse et annonce au monde, personne n'en revient, sa séropositivité.
En raison de ce virus, du VIH que j'ai contracté, je dois quitter les Lakers aujourd'hui. Je voudrais juste préciser que je n'ai pas le sida, puisque je le sais, c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent, mais bien le VIH. Je compte bien continuer, vivre longtemps, vous embêter, vous tous, comme je l'ai toujours fait. Donc vous continuerez à me voir. J'ai l'intention de rester proche des Lakers et de la Ligue et de continuer à vivre ma vie.
Et il avait raison, Magic Johnson, il est toujours là, professeur Awa Marie Kolsek. Est-ce que vous gardez le souvenir de cette annonce ?
Oui, tout à fait, parce que j'étais d'abord sportive aussi. J'étais très impressionnée par le courage, parce qu'il fallait être courageux pour dire à l'époque « je suis séropositif », surtout quand on est une personne publique comme Magic Johnson. Donc, ça m'a bien marqué, effectivement.
Et justement, est-ce que vous estimez que les personnes publiques, quand elles révèlent leur maladie, c'est plutôt un bien, c'est plutôt un mal ? Vous employez le terme de courage, donc on comprend l'approche positive de cette démarche, mais c'était quelque chose de très important, notamment pour le sida, en tout cas, pour toutes les maladies stigmatisantes.
Tout à fait, parce que ce sont des modèles. Et donc, quand cette personne peut avoir certaines choses, pourquoi pas moi ? Donc, c'est vrai que ça aide énormément. D'ailleurs, on a utilisé beaucoup toutes ces célébrités dans la lutte contre beaucoup de maladies. Et c'est vraiment très efficace pour moi dans la communication.
Alors, une autre période de votre vie, hein, vous la consacrez à organiser la riposte contre un autre grand fléau pour le continent, le paludisme, au travers de 8 années d'engagement comme directrice exécutive du partenariat Faire reculer le paludisme, Roll Back Malaria en anglais, partenariat entre l'OMS, les agences de l'ONU, la Banque mondiale. Quels souvenirs vous en gardez justement de ces années de lutte contre le paludisme ?
Ah, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction, parce que quand il y a eu la création de ce partenariat, qui était, comme vous l'avez dit, un partenariat entre les agences des Nations Unies, mais aussi avec le secteur privé et avec la société civile, avec les chercheurs. Donc, il avait été reconnu que c'était une bonne stratégie de mettre tous les acteurs autour d'une table et de travailler ensemble pour se battre.
Ça veut dire que là aussi, on s'est peut-être inspiré de l'expérience SIDA.
Moi, en tout cas, j'ai beaucoup poussé à cause du SIDA parce que je comprenais que c'est ça qu'il fallait faire. Et nous avons pu avoir d'excellents résultats puisque vous savez que le paludisme aujourd'hui, de numéro 1 dans beaucoup de pays, est maintenant numéro 5, par exemple. Et que la mortalité a beaucoup baissé, pratiquement de moitié dans le monde. Et donc, ce partenariat à faire reculer le paludisme à un moment donné, en tout cas pendant longtemps, était vraiment le leader et a fait énormément dans la coordination avec des résultats très, très intéressants.
Alors, un recul significatif dans un premier temps, on va dire aujourd'hui, professeur Awa Marie Kolsek, face aux derniers chiffres de l'OMS, hein, il remonte à novembre seulement, il montre en fait que cette riposte stagne, que le nombre de cas en fait a cessé de baisser, une lutte au point mort, c'est ce que regrette l'OMS. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de méthode ?
En réalité, il fallait contrôler. Il faut dire aussi que les moyens ont stagné. Moi, ma vie et mon expérience au niveau de World Bank Malaria, c'est qu'on est passé d'un financement très faible à un financement vraiment assez intéressant qui nous a permis d'acheter beaucoup de moustiquaires pour les pays imprégnés, de donner les médicaments les plus modernes, etc. Puis, on s'est rendu compte, moi je suis ça maintenant, puisque je suis dans les pays, il y a beaucoup moins de moyens mis à la disposition des pays. Il y a cette lassitude des donateurs qui se disent, bon, peut-être le palu maintenant c'est réglé, il faut penser à autre chose. Alors que tout c'est clair que tant qu'une pandémie n'est pas terminée et éliminée, il ne faut pas arrêter le soutien, il ne faut pas baisser la garde. Et c'est ça qui est en train d'arriver, mais je sais que la riposte est en cours aussi.
Alors, médecins, chercheurs, professeurs, ministres, quand on vous demande de choisir une musique pour illustrer votre portrait, eh bien, vous souhaitez entendre votre compatriote Youssou N'Dour, lui aussi plutôt polyvalent. Hein. Pourquoi ce choix, en quelques mots ?
D'abord parce que j'aime beaucoup, beaucoup sa musique, mais j'aime aussi la personne. C'est un frère pour moi. Et je sais que c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup appuyé parce qu'il était ambassadeur de la lutte contre le paludisme tout le temps où j'étais à World Bank Malaria. Donc nous avons travaillé ensemble aussi. Il s'intéresse beaucoup aux problèmes de santé et aux problèmes de développement en général. C'est un modèle, moi, je trouve, quand on parle de chanteur. Il faut avoir une ambition, avoir aussi une vision des choses, ce qu'il a. Et en plus, il chante bien, il a de la bonne musique.
Youssou N'Dour, 1994, joue avec Néné Chéri, 7 Seconds. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI.
Xamuma li nek ci sama souf ak sigina bëgguma kuma xol dal di ne yow li nek ci yow mo ne ci man li ne ci ni moy di len jappal.
Marie Colsec, pour poursuivre avec vous cet entretien portrait ministre d'État, ça fait du bien aussi de faire des pauses musicales, même quand on appartient au gouvernement.
Tout à fait, tout à fait. Et là, je voulais juste ajouter que ce qui me plaît aussi dans cette chanson, c'est certains messages qu'on a. Et celui qui est important pour moi, c'est celui de ne pas faire de discrimination en fonction de la couleur de la peau. Et donc, ça aussi, c'est un message fort. On est tous les mêmes, on est tous égaux. C'est pas parce qu'on est jaune, noir, blanc ou autre, mais c'est des êtres humains.
contre, ça, contre la discrimination, pour défendre aussi certaines valeurs. Retour en arrière sur votre carrière, diplôme 1978-1984, vous devenez professeur agrégé de médecine, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. À 33 ans, vous êtes la première femme sénégalaise agrégée de médecine. Est-ce que vous vous définiriez comme féministe ou pas?
Si être féministe, c'est vouloir que les femmes s'en sortent, se battre pour les femmes, se battre pour qu'elles ne soient pas discriminées, se battre pour qu'elles aient une place dans la nation, qu'elles aient aussi un rôle dans le développement du pays, je suis féministe. Si maintenant on me dit, voilà les féministes, c'est parce qu'elles sont des agressives, je pense qu'on peut être féministe comme je l'ai décrit, et c'est comme ça que je me vois. Et donc, je suis féministe, effectivement.
Féministe et humaniste, on en vient à parler justement à cette tendance à aller sur de nouveaux territoires. Hein. Souvent, quand on décrit les étapes de votre vie, on dit première en ça, première en ça. Est-ce que c'est plus le fait du hasard de rencontre ou est-ce qu'on peut dire que vous étiez, c'est de la provocation, mais j'assume, programmé pour gagner?
Je ne sais pas. J'ai voulu toujours faire les choses bien. Quand je m'engageais, c'était pour bien faire. Bon, c'était pas pour m'amuser ou je veux faire l'internat, je le fais et je passe des nuits blanches, je travaille sur ça pour aller à l'agrégation, même chose, mais sans que je sois omnibulée par cela. D'ailleurs, quand je suis allée au concours d'agrégation, c'était au Congo-Brazzaville, quand je suis rentrée, l'aéroport était plein de personnes qui venaient nous accueillir. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, mais si ça n'avait pas marché, les gens seraient peut-être très déçus. Mais moi, je ne savais pas que c'était aussi important pour tout le monde. Donc voilà, c'était vraiment, il fallait le faire. C'était ma carrière, j'étais bien engagée. Mais c'est peut-être parfois les autres qui sont beaucoup plus, disons, intéressés par votre carrière et qui se disent, il faut que ça marche. Donc tout ça, c'est important.
En tout cas, c'est une grosse pression. Hein. Carrière, responsabilité et parcours au cours duquel des liens se tissent, des collaborations se consolident. On va justement maintenant poser quelques questions à l'un de vos compagnons de route et compagnons de recherche.
RFI.
Professeur Ibrahima Seck, bonjour.
Bonjour Caroline.
Professeur Seck, imprécision évidente, mais tout de même on le dit sans aucun lien de parenté avec notre invité. Vous êtes médecin colonel, spécialiste en santé publique et conseiller technique auprès de la présidence de la République sénégalaise. Quel professeur a été pour vous Awa Marie-Cole Seck?
Le professeur Awa Marie-Cole Seck nous a vraiment marqué. C'est aujourd'hui considéré comme une icône au niveau donc du Sénégal. Elle alliait à la fois l'image du professeur qui est majestueux, mais aussi l'image de la maman. Donc tout le respect qu'on doit à son rang académique, mais aussi elle prenait soin vraiment des étudiants, mais aussi à l'hôpital. Durant les stages, lors des visites qu'on faisait aux malades, des questions ont été posées aux étudiants, et elle prenait tout en nécessaire pour vraiment bien s'assurer que les étudiants ont bien maîtrisé soit la question, ou bien les techniques médicales qui étaient question justement d'appliquer.
Alors l'importance de la transmission du savoir, de tous les savoirs, ce côté, vous le dites, maternant, professeur et aussi ministre, là aussi vous avez travaillé auprès d'elle. Comment justement vous définissez cette relation, travailler avec Awa Marie-Cole Seck dans la politique, c'est comment?
Je puis vous dire que c'est quelqu'un qui allie à la fois la rigueur, puisqu'elle aime le travail bien fait, mais aussi, elle aime bien aussi s'assurer que tout le monde, n'est-ce pas, est dans de bonnes conditions de travail. C'est vraiment les deux points forts qui m'ont le plus marqué en elle. Autant elle est exigeante quand elle vous confie quelque chose à faire, mais aussi en dehors du travail, elle a des relations toutes amicales, n'est-ce pas, avec son personnel. Ce qui fait que, vraiment, elle était aimée de tout le monde.
Justement, exercer la médecine, hein, l'enseigner, pour vous, c'est un plus pour traiter de ces questions de santé, y compris quand on occupe des responsabilités politiques?
Affirmatif, puisque il n'est pas médecin qui veut. Quand on choisit d'être médecin, c'est parce qu'on a cet amour envers l'être humain, envers son prochain. Donc, il y a d'abord ce côté social qui est là. Ensuite, du côté politique, il y a des objectifs attendus et des objectifs à atteindre dans son agenda.
Alors, exercice difficile, hein, professeur Ibrahima Seck. On parle beaucoup des qualités, des moments qui ont jalonné le parcours d'Awa Marie-Cole Seck, du lien tissé. On dit souvent les proches connaissent nos qualités, ils connaissent aussi nos défauts. Ces portraits, c'est pas un panégyrique, c'est pas un exercice de communication. Moi, j'aimerais connaître aussi un petit peu le dessous des cartes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur les défauts d'Awa Marie Kolsek?
Voyez-vous, un peu dans notre situation ici, en Afrique, quand on... la ponctualité, par exemple. Généralement, quand on convoque à une réunion, on dit que le début, c'est à 9h. Il faut s'attendre à voir les gens arriver à partir de 9h30. Mais elle, quand on lui dit que c'est à 9h, à 9h05, elle est présente.
Trop ponctuel. C'est pas vraiment un défaut. C'est peut-être un défaut pour ceux qui vont arriver avec une demi-heure de retard.
Du coup, ça bouleverse les habitudes.
Vous avez employé les mots tout à l'heure de respect, d'exigence. Ça ne va pas jusqu'à l'autorité. Vous n'utiliseriez pas ce terme d'autorité?
Ah oui, c'est-à-dire que dans le cadre du travail, quand je disais exigence, c'est à l'autorité. Puisque elle aime le travail bien fait. Et dans cela, il n'y a pas de négociation. À tout instant, c'est quelqu'un qui est en train de travailler. Donc, elle est très rigoureuse dans le travail. Et quand le travail n'est pas bien fait, là, elle passe pas par quatre chemins pour vous remettre les points sur les i.
Le travail d'abord. Merci beaucoup, hein, professeur Ibrahim Assek. Je rappelle que vous êtes médecin colonel spécialiste en santé publique. Alors, entretien réalisé il y a quelques jours, professeur Awa Marie Kolsek, vous avez beaucoup souri, vous avez même ri. Vous êtes une femme qui remet les pendules à l'heure, c'est ça?
Parfois, je me demande si ce n'est pas un défaut, parce que je n'aime pas mentir. Et quand les choses sont claires, je dis c'est clair. Si c'est sombre, je dis c'est sombre. Et bon, j'essaie de toujours vous dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Alors, en lisant votre biographie, on remarque la liste des honneurs, les multiples distinctions. J'ai eu du mal à faire parler votre collaborateur sur vos défauts. Je n'ai pas vous demandé de faire une introspection. En tout cas, professeur Awa Marie Kolsek, est-ce que vous êtes sensible à ces honneurs, aux médailles? Et en tout cas, quand il y a ces réunions où on met en avant les hauts, pas les bas, les hauts de votre parcours, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche?
Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, surtout par rapport aux personnes qui me font cette distinction-là. Ce serait quand même ingrat. Mais j'avoue que je ne suis pas de ceux qui mettent leurs médailles au mur ou dans une collection. J'ai mes médailles dans un grand sac que je garde quelque part au fond de mon armoire. Une fois, on m'a reproché de ne pas venir chercher des médailles que j'avais eues au Sénégal. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. D'ailleurs, quand je regarde mon CV, parfois, je dis, ah bon, tu as eu tout ça?
Cette dame, elle a fait tout ça?
Oui, mais bon, c'est pas ce qui guide ma vie.
Alors, en tout cas, des publications scientifiques très nombreuses. J'imagine de cela, vous en êtes fière, 200. Hein. Et vous avez confié que, du coup, vous n'aviez pas le temps d'écrire un livre, d'écrire sur vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Est-ce que c'est un de vos projets?
Je le regrette, c'est un projet presque, je peux dire, permanent. Mon mari lui-même me dit tout le temps, mais il faudrait que tu écrives tout ce que tu as fait. Moi, j'ai pas beaucoup de vacances, j'ai pas beaucoup de temps. Et je me dis, il faut que tu prennes du temps pour le faire. Je pense même que si je le faisais, ce serait demain. Donc, quelqu'un qui serait beaucoup plus apte que
quelqu'un
moi.
Quelqu'un qui vous aide.
Qui m'aiderait.
Alors, émission portrait pour parler de votre carrière, médecine, recherche, politique. Et une carrière que vous avez conciliée avec votre vie de famille, car, professeur Kolsek, vous êtes aussi mère, grand-mère. Et nous allons donner la parole à l'un de vos enfants.
RFI.
Khadija Touba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fille, l'une des filles du professeur Awa Marie Kolsek. Nous avons enregistré cet échange avant la rencontre à Dakar. Khadija Touba, quels mots vous viennent si on vous demande de décrire votre maman?
Le premier mot, c'est évidemment battante. Battante dans le sens de manager, en fait. Elle motive ses troupes. Elle nous a toujours accompagnés dans ce qu'on voulait faire. Elle nous a toujours motivés, elle nous a toujours poussés.
Est-ce que vous avez des souvenirs, petite fille, justement, de la maman qu'elle était? Parce qu'après, la motivation, on le comprend quand on va à l'école, quand on fait des études, quand on a un choix de vie, de carrière. Mais quand on est enfant, avoir une maman comme Awa Marie Kolsek, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres, à ses copines, par exemple?
Par rapport à mes copines, c'est une maman qui est là, moins peut-être que les autres mamans, mais dont la présence est toujours de qualité. C'est-à-dire, moi, quand j'étais petite, quand j'allais à l'école, je sentais toujours ma maman. même si elle n'était pas à la maison nécessairement toute la journée, ou que quand je revenais de l'école, qu'elle n'était pas à la maison à m'attendre.
Vous avez employé tout à l'heure le terme de battante. Est-ce que vous avez aussi en vous de la fierté, ou c'est simplement une relation, c'est énorme bien sûr, de mère à fille, cet attachement, cette affection, c'est quoi ? C'est davantage vers observer comme quelqu'un un peu extérieur, ou rester vraiment, c'est ma mère, et ce n'est ni une ministre, ni un grand médecin, ni une chercheuse de renommée internationale ?
Je vais illustrer ça juste par un exemple. J'ai une fille qui a 6 ans maintenant, et c'est l'année dernière qu'elle est arrivée à la maison en disant « Mamie, tu es ministre, toi ?»
Ça veut dire que la ministre ne passait pas la porte, la maman rentrait à la maison.
Exactement, c'est notre maman, c'est une mamie.
Et qu'est-ce qui vous a rendu la plus fière, d'avoir une mère médecin, d'avoir une mère chercheur ou une mère ministre ?
Je pense qu'une mère médecin, ça nous a beaucoup marqué, parce que quand on était plus jeune, il y avait beaucoup de gens qui venaient nous dire « Ah, ta maman m'a soignée, ah, c'est grâce à elle que je suis encore comme ça, etc. » On allait parfois à l'hôpital pour la voir. Quand on avait fini l'école, on revenait par l'hôpital et on rentrait ensemble à la maison. On a rencontré ses patients. On l'a vu évoluer dans son service. On l'a vu en tant que médecin avec sa blouse blanche, etc., son stéthoscope autour du cou. C'est maman docteur. Maman médecin, je pense que c'est celle dont on a le plus de souvenirs, d'images et de fierté, évidemment. Être sa fille, ça ne vous donne pas le choix. Parce que la barre est tellement haute que vous n'avez pas le droit de faire pas assez. Ma mère, je la vois toujours comme quelqu'un qui a été première dans ci, première dans ça, première dans ça. Donc, je ne peux plus faire ce première-là. Mais il faut que j'approche le plus possible. Donc, mes enfants, je leur consacre beaucoup de temps. Je fais des activités avec elles. Mais sur le plan professionnel aussi, j'essaie de me battre le plus possible.
Bien, merci infiniment. Merci beaucoup, Khadija Touba, d'avoir répondu à ces questions. Au revoir.
Au revoir.
Comment vous réagissez, professeur Aguamari Kolsek, en écoutant votre fille ?
D'abord, c'est ma fille aînée. Oui. Donc, je pense que le choix a été porté sur elle à cause de ça aussi. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je sens qu'elle a dit ce qu'elle pensait. Et c'est vraiment la réalité. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir tout le temps possible pour mes enfants, mais elle a choisi un mot qui me semble être important, c'est celui de qualité. À chaque fois que j'étais là, j'étais vraiment là. D'ailleurs, mon mari est souvent en train de dire que les enfants sont plus proches de toi que de moi. Bon, c'est toujours un petit débat. Ils ont toujours des choses à te dire. Je suis très proche de mes enfants et des petits-enfants. Cette fusion avec les enfants, elle est là.
Dans votre parcours, il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est celui de syndicaliste, de militante. Aujourd'hui, vous faites de la politique, ça fait de nombreuses années que vous en faites. En tout cas, cet engagement, il s'est manifesté très tôt, mais vous étiez une militante médecin, une militante politique ou une militante femme médecin ?
Vous arrivez à vraiment saucissonner ma vie et mon...
Mais vous êtes une fusion peut-être de beaucoup de choses. Je ne sais pas de vous faire entrer dans une case, je n'y arriverai pas. Il n'y a pas de case pour ça.
Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi aussi. Mais je sais que j'avais... parce que j'étais même au niveau national. Donc j'ai eu des responsabilités importantes au niveau des syndicats. Et l'une des choses importantes pour moi, c'était de dire tous ceux qui sont dans le système de santé doivent travailler ensemble. Et dans le syndicat, la lutte aussi doit être commune, doit être unitaire. Parce que si vous aidez un groupe, vous n'aidez pas l'autre, c'est toujours difficile. L'infirmier ou le garçon de salle qui fait mal son travail, il va vous gâcher votre travail, vous, en tant que médecin. Donc le syndicalisme, ça a été aussi vraiment de mettre les travailleurs dans des meilleures conditions de travail et de vie, et de tout faire pour que les malades aussi soient accueillis dans de meilleures conditions et traités aussi de la même manière.
Est-ce que c'était en réaction par rapport à ce que vous viviez, ce que vous voyez ? Est-ce que ça venait de quelque chose qui relève plutôt de la colère ou de l'engagement ?
Les deux, parce que j'étais aussi en colère de voir que le statut des travailleurs de la santé n'était pas valorisé comme cela devait l'être. C'est pour ça que nous nous sommes battus, qu'il y a eu quand même des acquis qui ont été observés. Et aujourd'hui, c'est assez différent de ce que nous avions quand nous commencions. Donc, il y avait cette colère-là. Mais aussi, c'était un engagement plus aussi pour que les populations puissent avoir accès vraiment aux soins de qualité.
Alors, de syndicaliste, vous êtes passé à ministre, puis ministre d'État, après avoir été donc ministre de la Santé et des Affaires Sociales, professeur Awamari Kolsek. Si vous deviez regarder en arrière et défendre un projet que vous avez porté au gouvernement, ce serait lequel ?
Bon, je peux parler de ce que nous avons eu à faire dans la lutte contre le tabac. Ça peut vous sembler être un exemple peut-être auquel vous vous attendiez pas. Et nous avons pu faire passer cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais ça a été une grande bataille. Et aujourd'hui, c'est une de mes fiertés. On peut croire que je pense à tout, mais ça, pourtant, c'est important pour moi.
Le Sénégal est plutôt pionnier dans la lutte contre le tabac en Afrique de l'Ouest, justement avec cette loi qui restreint la possibilité de fumer dans les lieux publics, avec aussi le début d'une prise en charge aussi des patchs ou des substituts nicotiniques très importants pour arrêter.
On est en train d'essayer, mais ce n'est pas encore là où on voudrait, mais il y a beaucoup de projets dans ce sens.
Alors, projet donc dans la lutte contre le tabac, des efforts particuliers aussi, là je m'adresse forcément aussi à la femme ministre, dans le domaine de la santé reproductive, de la contraception, c'est essentiel.
C'est vrai que quand je suis arrivée à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avions, disons, une couverture en contraceptif qui était autour de 10%. Et après, bien sûr, quelques années, même 4 ans à peu près, nous sommes arrivés à 23%. Et c'est dire que c'est possible. Il y a eu une communication qui a été adaptée à la culture, adaptée aux religions, adaptée aussi à la conception que les gens avaient de cette planification familiale. Et nous pensons que ça aussi, c'est reconnu même au plan international, où on donne l'exemple du Sénégal qui a fait des bons vraiment dans ce domaine. Et j'espère que ça continuera comme ça. Et nous avons voulu montrer que ce n'est pas la limitation des naissances, parce que ça aussi c'est un mauvais procès qui est fait et souvent les gens confondent cela. Une femme peut avoir ses 4 enfants mais les avoir en 10-15 ans et avoir 4 enfants en 4 ans. Donc c'est ça vraiment le grand problème pour nous.
Et ça change beaucoup de choses en termes de mortalité maternelle
et infantile aussi.
Alors justement, il reste énormément à faire dans ce domaine de la santé maternelle, dans le domaine de l'accès aux soins. Comment est-ce qu'on fait pour fixer des priorités quand il y a autant de défis ?
C'est difficile. C'est très, très difficile. Et les priorités, on n'en a jamais une. On en a souvent plusieurs. Et on essaie d'avoir aussi des financements au niveau interne comme au niveau international parce que la santé a un coût et c'est facile de dire il faut, mais il faut trouver l'argent aussi. Les gens nous disent oui, vous n'avez pas fait assez de progrès, pourtant il y a encore des femmes qui meurent, tout ça, mais il faut des structures sanitaires, il faut du personnel qualifié, il faut également que les femmes aient la bonne information pour faire les consultations prénatales, pour qu'elles viennent à temps pour accoucher, etc., qu'elles n'accouchent plus chez elles. Donc c'est tout un programme. Et donc, il faut savoir que faire des priorités dans des pays comme les nôtres, c'est pas facile. Mais nous en avons toujours eu. Et pour le ministère de la Santé, nous avions vraiment mis le focus sur les maladies transmissibles. Mais après, quand je suis venue, j'ai vraiment voulu qu'on fasse aussi beaucoup de choses sur les maladies non transmissibles, parce qu'aujourd'hui, nous avons un double fardeau en Afrique. Les infections et les maladies non transmissibles, comme les cancers, comme le diabète, les hypertensions artérielles, il y en a beaucoup. C'est pour ça que c'est difficile de faire des priorités, mais il faut aussi en avoir.
Et derrière toutes ces questions, il y a un projet clé, c'est la couverture maladie universelle, professeur Awamari Kolsek, parce que l'on soit atteint de tuberculose ou d'une maladie chronique comme le diabète, eh bien il faut de l'argent, surtout quand on doit se soigner sur le long cours. Et ce projet, il est en cours, mais là encore, la bataille est loin d'être gagnée.
Tout à fait, c'était important. Et là aussi, je voudrais vraiment rendre hommage au président de la République qui lui-même a mis la couverture maladie universelle dans son propre programme. Et c'est quand je suis arrivée qu'il m'a dit qu'il faut que vous travailliez sur ce sujet et que vous en fassiez une de vos priorités.
Tout à l'heure, vous avez parlé de ces chiffres significatifs pour la contraception. Est-ce qu'on peut porter au crédit du gouvernement ce même genre d'avancée?
Oui, tout à fait.
Quantitativement, réellement,
Nous sommes arrivés, c'était 20%. Les fonctionnaires et la plupart des privés officiels qui ont aussi une assurance. Et aujourd'hui, on est à près de 50% en utilisant les mutuelles de santé communautaires. parce que c'est le secteur informel, ce sont les agriculteurs, ce sont les pêcheurs, ce sont les coiffeuses ou coiffeurs, ce sont les couturières, les tailleurs, ce sont ces personnes-là. Et bien sûr, toutes les personnes qui ne travaillent pas, les chômeurs aussi. Il faut les prendre en charge. Donc, il y a une cotisation qui est très faible, 3 500 francs CFA par an, et l'État donne la même somme en subvention. Donc, l'État met beaucoup d'argent aussi dans la couverture maladie universelle, donne une possibilité aux enfants de moins de 5 ans d'avoir des soins gratuits, surtout dans les structures, périphériques, postes de santé, centres de santé. On peut dire aussi que la gratuité des dialyses, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le sens de la couverture maladie universelle. C'est donc beaucoup de progrès aujourd'hui au Sénégal, mais nous n'avons toujours pas atteint la couverture universelle, puisque quand je parle de 50%, il reste encore 50%. Et c'est tout un challenge, tout un défi à relever, et je sais que les gens travaillent dur pour cela.
On a entendu, on a compris que vous étiez une femme de conviction. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner quand il faut arbitrer, quand il faut choisir et forcément laisser certaines questions de côté? Est-ce que parfois, des fois, on ne s'endort pas un petit peu en colère?
C'est sûr. C'est sûr. Moi, j'avais, quand j'étais au ministère de la Santé, le matin en allant au bureau, il y a des émissions comme ça où les personnes disent ce qu'elles pensent. Et donc, j'avais toujours quelque chose sur la santé. Des gens qui disaient, oui, je suis allée à l'hôpital, on ne s'est pas bien occupé de moi, je suis allée, j'ai une ordonnance que je ne peux pas payer. Il y avait toujours quelque chose. Et donc, moi, je me couchais non seulement frustrée parce que je me disais, j'ai fait beaucoup de choses, mais il en reste encore, mais je me réveillais avec ça également. Donc, c'est vrai que c'est un ministère et un secteur qui n'est pas du tout facile et qui est un peu ingrat aussi parce que rien ne peut être fait à 100%. Dans un ministère de la santé. C'est pour ça que c'était vraiment 5 ans.
Oui, mais malgré tout, vous continuez.
Alors là, je suis ministre d'État auprès de M. le Président de la République, ce qui veut dire qu'il m'a donné une promotion, mais ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de recul. Vous voyez que j'ai maintenant des dossiers qui sont plus multisectoriels. Je suis moins dans le quotidien et ça me permet de prendre beaucoup plus de recul sur les choses et d'avoir une plus large réflexion. En tout cas, c'est une expérience extrêmement intéressante.
Davantage de sagesse, peut-être?
C'est ça, je vais mûrir, sans doute.
Merci beaucoup, professeur Awa-Marie Kouelsek, d'avoir répondu à notre invitation, partager ce moment inauguré. Merci beaucoup, cette série de portraits dans Priorité Santé, émission réalisée par Richard Rifono et Didier Bleu, préparée par Assetou Samaké et Ophélie Lassène. Et pour se dire au revoir, on va se laisser au son et au rythme d'un genre musical qui vous fait vibrer, avec une voix, une femme qui nous fait vibrer, c'est Aretha Franklin, avec Sing, ce titre de cette reine de la soul, c'est en 1968. You better think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go way on the way back when. I didn't even know you, you couldn't have been too much more than 10.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.